Dans quelques instants, Philippe, on va parler à notre ami Martin McGuire, mais juste avant, quelques nouvelles de sport.
Oui, tu sais, juste pour compléter sur la COVID et le sport, Roland Garros, le tournoi commence dans une dizaine de jours et on avait annoncé, Patrick, que quotidiennement, là, Roland Garros accueillerait 11 500 spectateurs, c'est-à-dire 5 000 dans chacun des deux gros stades, puis 1 500 dans le troisième terrain. Bien là, aujourd'hui, on a revu ces chiffres-là à la baisse. Ce sera un maximum de 5 000 personnes par jour. Je te rappelle que ça commence dans 10 jours. Donc, peut-être que ça va baisser encore. Ce ne serait pas étonnant, finalement, qu'on finisse par disputer ce tournoi-là à huis clos. Enfin, on verra bien, mais là, déjà, une coupe importante. Golf, c'est le début du US Open. Aujourd'hui, un majeur qui aurait dû être joué au mois de juin, mais qui a été reporté. Un des quatre tournois majeurs de la saison, mais en 2020, il y en aura simplement trois parce qu'on n'a pas disputé l'Omnium britannique. Il ne sera pas repris. Les fans de Tiger Woods, pas une très bonne journée pour Tiger, ni pour les fans de Phil Mickelson. Les deux ont joué plus trois, alors que le meneur à l'heure actuelle, c'est l'Américain Justin Thomas, qui est à moins 5, Patrick Reed à moins 4 et un grand groupe là à moins 3. Quelques noms connus dans ce groupe-là, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau et je pense même que... qui est là? Est-ce que Ricky Fowler est là? Non, il est à moins 2 finalement, Ricky Fowler.
Bon, ben on lui souhaite bonne chance à M. Fowler et on est content d'accueillir notre ami Martin McGuire. Salut Martin!
Hey, bonjour à vous deux!
Salut. Hey, Martin. Bon, d'abord, là, Marc Bergevin a réussi son pari. Il a mis sous contrat Joel Edmondson. Là, tout le monde est bien, bien enthousiaste. Ça va être un coup à la Ben Chiarot. Mais il y en a d'autres qui sont plus sévères. Non, non, non. Ça va plutôt ressembler à Carl Alsner. On le sait, ça n'a pas été un succès. Ta lecture, là, la vérité, selon Martin McGuire, elle est où?
Écoute, la vérité, moi, j'ai pas la prétention de dire ça, mais je peux te donner mon humble analyse. Je pense que Edmondson, comparativement à Alsner, est peut-être un joueur qui a plus à offrir. Parce que même Alsner, quand il est arrivé à Montréal, c'est un joueur qui commençait déjà à ralentir par rapport à la vitesse du jeu pour sa prise de décision. Tu sais, Alsner, c'est pas son coup de patin, c'est sa prise de décision. On dit que, bien évidemment, moi, le souvenir que j'ai de Edmondson, c'est que c'est un joueur qui peut offrir mieux par rapport à ça. Il a 27 ans, il est dans le meilleur de sa carrière, puis il vient de terminer avec la Caroline une saison de 20 points. Alors, pour un défenseur défensif, à caractère robuste et défensif, 20 points, c'est loin d'être si moche. Évidemment, c'est un contrat de 4 ans. T'sais, 4 ans, c'est long, c'est 3,5 millions, mais je pense que le Canadien ne prend pas un gros risque avec lui. Il y a une possibilité de le voir jouer avec Petrie, en attendant que le jeune Romanov soit là. Je pense pas qu'on est dans une avenue Carl Alsner avec Joel Edmondson, qui, soit dit en passant, nous a raconté aujourd'hui que toute sa petite famille, son père, la grand-maman, tout le monde parle français dans la famille.
Et lui?
Lui, il dit qu'il a parlé français la dernière fois quand sa grand-mère appelle à la maison. Il jase un petit peu avec sa grand-mère, mais jaser devant les micros puis les caméras, c'est une autre affaire. Mais il nous a dit que son immersion...
Est-ce qu'il a dit quelques mots en français aujourd'hui?
Non, il n'a pas dit de mots en français, mais il nous a dit que son immersion en français quand il avait 9-10 ans va faire en sorte qu'il va le rattraper assez vite.
Bon, alors, Martin, tu devrais lui expliquer une chose à Joel Edmondson, parce que souvent, moi, j'ai entendu ça là, depuis ma carrière comme journaliste. Non seulement il n'est pas le premier, mais il y en a beaucoup qui disent « Ouais, je serais capable de parler un peu, mais je suis un peu gêné parce que je parle pas assez bien puis j'ai peur de faire des erreurs. »
Et c'est quoi, Philippe, c'est vrai?
Ben non, mais c'est ça n'a pas de bon sens. Si les gens, là, tout ce qu'ils veulent, c'est voir un effort. C'est comme sur la glace. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un effort des joueurs.
Absolument.
Alors qu'un joueur qui ne parle... qui parle, qui serait capable de se débrouiller, mais qui n'ose pas le faire parce qu'il a peur de mal paraître.
Jusqu'à
il faudrait lui faire comprendre que c'est tout à son avantage de le faire parce que les gens vont le trouver sympathique.
Mais je sais ce que Martin va nous dire. Vas-y, Martin.
Ben, moi, je partage ton avis, Philippe, là, à 140% avec toi là-dessus. D'ailleurs, j'ai toujours remercié les gars qui ont pris la peine de le faire. Puis il y en a dans la Ligue nationale qu'on voit là, dans les autres équipes qui prennent la peine de le faire. Mais jusqu'à ce qu'un jour, un humoriste ridiculise Sidney Crosby, qui faisait l'effort de nous parler en français, jusqu'à ce que des gens qui se pensaient bien drôles ridiculisent Chad Kilger il y a quelques années, qui se forçait de nous parler français. Même chose pour Brian Savage, jusqu'à ce que ces gens-là soient aussi ridiculisés en même temps. Tu sais, je partirai pas le débat linguistique cet après-midi, c'était pas le but de l'intervention, mais je sais que pour certains joueurs, l'exemple des gars que je viens de nommer est encore frais en leur mémoire. Et qu'il soit gêné de le faire, je peux comprendre. Puis je suis 150% avec toi. Il devrait faire l'effort. Tu sais, le jeune Brett Learnout, là, qui joue avec le club école de Laval, là, il était capable de s'exprimer en français. Au repêchage, il nous avait parlé sur une conférence téléphonique en français. Mais quand les caméras sont arrivées autour de lui, c'est devenu plus difficile. Ouais. Puis, je comprends jusqu'à un certain point, je peux comprendre les gars qui ont peur d'être ridiculisés en s'essayant de parler français.
Martin, on a annoncé aujourd'hui dans un autre registre, mais qui touche quand même à ton domaine d'expertise, un film sur Guy Lafleur. Est-ce que t'es enthousiaste ou tu trouves ça un peu casse-gueule?
Je comprends. Non, ben écoute, ça dépend comment on l'aborde. Et ce qui est toujours périlleux dans ces films de hockey, ce sont les fameuses scènes de hockey. Oui. C'est difficile de recréer le démon blond sur la patinoire quand tu parles justement du démon blond. Tu sais, si tu veux faire une histoire avec un bagarreur qui a vécu des moments difficiles, John Cordick, puis tu fais des scènes de hockey, ça va se faire. Mais de recréer le démon blond, là, je ne sais même pas s'il y a un comédien au Québec qui est capable de patiner juste un peu comme le démon blond. Je sais qu'on peut faire bien des affaires en disant, comme on dit chez nous, là, comme ma grand-mère disait, arranger avec le gars des vues, là, on peut faire bien des choses techniquement. Mais là où est le casse-gueule là-dedans, c'est d'intégrer des scènes de hockey qui ne seraient pas très crédibles. En même temps, moi, je voudrais qu'on la raconte, cette histoire-là. Oui. J'en connais des bouts, j'en connais pas tous les bouts, mais j'aimerais très bien qu'on la raconte, d'autant plus que la famille et même Guy semblent ouverts à raconter tout ça. Parce que moi, j'ai eu la chance, Patrick et Philippe, deux fois dans ma vie, d'être assis à une table avec un groupe d'individus puis d'avoir Guy Lafleur à la table en train de raconter une partie de sa vie puis de ses histoires. Puis ce serait tout à fait formidable. Mais quelle forme que ça peut prendre, comment on peut raconter les histoires de Guy sans tomber dans des mauvaises séquences des vieux lancers-comptes où les comédiens patinent sa bottine. Je sais pas, je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur, je sais pas comment on peut faire ça, mais c'est une histoire très riche et c'est une des grandes histoires québécoises qui ne nous a pas été encore racontée sur grand écran ou même au petit écran.
On a hâte de voir ça. Merci, Martin.
Certainement. Bonne fin de journée.
Philippe, Martin parle des vieux lancers-comptes, puis il n'y a rien qui vieillit plus mal que la télé, mais anecdote, 30 secondes avant de partir. Ado, je suis allé au tournage de Lancers-comptes 2. Et là, tu voyais, il y avait, tu sais, c'était la Coupe du Monde, puis il y avait des joueurs russes, puis etc. Écoute, je pense que c'était des Polonais qui jouaient des Russes. Les gars, t'es pas capable de se tenir sur des patins. Puis quand ils célébraient en close-up, il y a quelqu'un en arrière qui leur tenait les culottes pour pas qu'ils tombent à terre. Mais quand tu voyais, après ça, à l'écran, juste la façon dont les gars célébraient, tu voyais qu'ils connaissaient pas ça puis qu'ils avaient jamais patiné. Il y a ce danger-là.
Hein? C'est clair.
Et reproduire des scènes de hockey des années 70 avec des athlètes de maintenant, c'est pas évident.
Reproduire le fameux but contre les Bruins de Boston, la passe en retrait de Lemaire vers Lafleur, le plus grand but de sa carrière, sans doute. Bonne chance au comédien qui devra nous refaire ça.